Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On avait eu deux émissions très denses ces dernières semaines avec Fabrice Arin de Radio Sport et de Radio Cyclo la semaine dernière, avec Julien Paco, notre ami basketteur, il y a 15 jours. On va être encore dans cette lignée, on va encore avoir beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter ce soir. On va d'abord saluer notre invité, je suis ravi, c'est une des plus belles plumes pour la presse sportive française, c'est notre ami Jean-Luc Gatelier. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir et merci de me recevoir.
C'est un plaisir, en tout cas. On remontre un petit peu le cours, j'allais dire, de votre carrière, hein, et puis un petit peu votre regard aussi sur le sport. Je vais saluer celle qui... elle rentre de Montréal, elle a tout suivi sur les championnats du monde de patinage artistique. C'est Vanessa. Bonsoir Vanessa. Et puis, il y aura aussi encore une partie badminton. Hein.
Exactement, on écoutera les interviews tout à l'heure.
Très bien, et puis tu nous feras un petit débrief de ces mondiaux complètement fous. De
incroyable.
Patinage artistique.
Hein. Voilà.
Et puis, il nous fera le journal des sports. C'est celui qui est là depuis donc une semaine. Bonsoir, Alexandre, ça va ?
Bonsoir, Philippe. Ouais. Bonsoir à tous.
Il y a une belle actualité sportive ?
Franchement, hein, oui. On s'est régalé. Top 14, de basket.
Voilà. Et après, on t'entendra avec Malik pour au bout du foot. Hein.
C'est ça.
Voilà, très bien. Allez, Jean-Luc, en tout cas, grand plaisir de vous recevoir. Ça arrive comment, cette passion pour, dans votre vie pour le sport, d'abord ?
Bah, c'est la pratique, déjà.
Oui, oui.
Très tôt, j'ai fait du sport. J'attendais impatiemment le mercredi pour aller m'entraîner au foot et le dimanche pour jouer.
D'accord, c'était le foot, le sport numéro un, étant jeune.
Oui, c'était très très longtemps le foot.
Oui. Dans le Val-d'Oise, hein.
Oui, 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 à Beaumont-sur-Oise, très longtemps. Et puis ensuite, je me suis passionné pour un sport individuel, l'athlétisme. Donc, ça a vraiment été mon sport au niveau de l'entraînement.
D'accord.
J'avais aucun don, mais je m'entraînais beaucoup.
Et comment on a envie de devenir journaliste ? Est-ce que c'était lié au sport ? Parce que souvent, voilà, on a envie d'être sportif, on n'y arrive pas. On s'est dit, tiens, on va essayer de faire un métier par rapport au sport. Pourquoi pas journaliste sportif ? Vous, non, c'était pas le cas ?
Oui, si. Oui, c'était le cas parce que j'ai dû lire L'Équipe à partir de 13-14 ans.
Ouais.
Comme, alors c'est pas très original hein, de lire ça parce qu'à l'époque
c'était notre bible hein.
C'était,
on
voilà,
se précipitait
c'était
chez le marchand de journaux
tous les gamins qui aimaient le sport faisaient la même chose hein. Et puis quand vous êtes passionné alors donc comme je l'ai dit c'était le foot les matchs de Coupe d'Europe à l'époque étaient rarement retransmis alors bien sûr il y avait les Verts de Saint-Etienne
ça a marqué quand même
a marqué toute une génération et puis quand vous êtes à l'école bah, vous apprenez plus facilement la géographie.
Oui.
Vous savez où situer Budapest, où situer Bucarest, où situer Varsovie.
C'est comme ça qu'on l'a appris. Hein.
Alors à l'époque, bien sûr, la géopolitique était différente, mais on apprenait plus facilement. Tiens, Leipzig qui joue contre tel club, contre Strasbourg ou je ne sais quel club, c'est où. Donc c'était une manière de mettre sur une carte les villes. Et puis connaître, savoir que tel champion, je pense à un joueur extraordinaire à l'époque comme Oleg Blokhin.
Ah là là, le dribble de trou hein, contre Saint-Etienne.
Oui, oui, oui. Alors je parle de lui, c'est pas innocent parce qu'en 2006, je suivais l'équipe d'Ukraine à la Coupe du Monde en Allemagne. Ils ont été battus en quart contre les Italiens, je crois bien.
Ça oui, oui.
Et le sélectionneur, c'était Blokhin. Et j'étais allé voir le grand joueur Shevchenko. J'étais allé les voir en Suisse en préparation. Et je demande une interview de Blokhin. J'avais trouvé une interprète, une Ukrainienne qui vivait en Suisse, qui parlait français. Et l'attaché de presse me dit « Non, Oleg Blokhin ne donne pas d'interview. » Mais je lui demandais quand même. Et il revient, il me dit « Il a accepté. » Il était très, très, très surpris. Et la première chose que Blokhin me dit en arrivant, il me dit « Ballon d'or France Football ».
Eh oui.
Ça veut dire qu'il avait eu, il avait été sacré meilleur joueur européen. Et comme un journaliste de l'équipe, France Football, c'est la même maison, il le savait.
Maison, bien sûr.
Demandait l'interview. J'ai eu l'interview, je pense, uniquement par rapport à ce prestige du Ballon d'Or et le fait qu'il l'a gagné. Voilà.
Donc, c'est ce qui vous incite à devenir journaliste, d'abord dans la presse locale.
Oui, oui.
Hein, donc, parce que c'est vrai qu'à nos époques, il n'y avait pas trop d'école de journalisme. Hein,
non, non. Alors, moi, j'étais nul en maths, en sciences, mais bon. Enfin, bon.
Comme beaucoup de journalistes. Bon,
moyen, moyen bon en France. En tout cas, j'aimais le français, la géographie, l'histoire. Voilà.
C'est les trois.
Donc, c'est sûr que j'ai. Et j'ai démarré dans une édition locale du Parisien. Ouais. À l'époque, c'était quand même un très, très grand journal.
Oui, c'était très suivi. Hein. Les gens achetaient le journal pour ça, pour les comptes rendus de match. De
exactement.
Foot,
et puis, d'ailleurs, là, j'ouvre une parenthèse, mais c'est ce que je retrouve aujourd'hui à la Nouvelle République dans l'Indre, où la rubrique sportive est extrêmement étoffée. Ouais. Et ça me rappelle le Parisien.
Bah oui, la presse de province, c'est hyper important.
Voilà, très, très important.
C'est une belle école, ça.
Oh bah oui, parce que...
Non, mais parce que les jeunes journalistes, aujourd'hui, il faut leur dire, c'est des belles
écoles. Parce qu'en local, on faisait tout. Hein. Oui, on faisait les faits divers, les photos d'accidents, c'était pas très drôle. Hein. Un peu de politique.
Oui, l'histoire des élections.
En rangeant un petit peu chez moi, j'ai retrouvé une carte de vœux envoyée par Michel Poniatowski,
qui avait été ministre de Giscard d'Estaing.
Qui était maire de l'Isle-Adam.
Oui.
Raison pour laquelle j'ai. Aujourd'hui, c'est son petit-fils qui est maire de l'Isle-Adam. Et donc, on est appelé à traiter plein de sujets, à essayer de savoir, d'avoir une connaissance un petit peu sur tout. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé.
Ouais, c'est ça.
Parce que les pages locales ne sont plus les mêmes. À l'époque, il y avait beaucoup de... il y avait pas mal de choses à traiter, pas mal de pages. Et puis ensuite, je suis passé au sport. Et puis je suis arrivé à Saint-Ouen, au siège du Parisien.
Ah ouais. Embauché définitivement.
D'une manière... je dis toujours, il faut dans ce métier, même si c'est de plus en plus dur, je pense, aujourd'hui, il faut avoir un peu de chance quand même. Et je me souviens d'un appel que j'avais eu, j'étais à l'agence à ce moment-là de Versailles du Parisien. On me dit ça serait bien que tu ailles vite à Clairefontaine, parce que le numéro 1 que vous avez bien connu, donc du rugby, Jean Cormier, est absent. Que plein de gens ont connu.
Grande personnalité.
Le dernier dinosaure de la presse, on va dire.
Et les troisièmes mi-temps en plus.
Voilà. On veut un sujet sur Serge Blanco. Alors, il faut essayer d'imaginer à l'époque, ça remonte. Hein. On est en janvier.
Mais moi, je connais, c'est mon coin.
On est en janvier 88.
Château Ricard, là-bas.
En 87, il y a eu la première Coupe du Monde de rugby. Serge Blanco est le meilleur joueur du monde. Et là, vous débarquez. Il ne vous connaît pas. Imaginons aujourd'hui, le numéro 1 mondial dans un sport majeur. Et là, je demande à Serge Blanco, est-ce que je peux vous voir et tout ? Oui, pas de problème. Voilà comment ça se passait. Alors, évidemment, c'était il y a très, très, très longtemps. Donc, c'est par ce coup de chance, puisqu'à l'époque, je travaillais dans l'édition des Yvelines. Le lendemain, Renaud Laborderie, le chef des sports, m'a dit, tu vas rester avec nous pour faire pour faire le tournoi avec Jean. Et puis on cherche quelqu'un pour le cyclisme, puisque Claude Rousson était parti au quotidien Le Sport. Et alors, j'aimais le cyclisme, mais ce n'était pas mon sport favori. Non.
C'est paradoxal, aujourd'hui, vous êtes un énorme spécialiste du vélo. Ce n'était pas votre sport de prédilection au début. Hein.
Non. Comme moi, c'était vraiment le foot et le rugby.
C'est ça. Donc, après, il y a le Parisien.
Donc, il y a toutes ces années au Parisien à suivre le cyclisme. Et ça m'a plu tout de suite. Parce que justement, c'était hors stade.
Ouais, c'est ça.
Alors que j'adorais les stades. Mais là, vous êtes sur la route, et j'adore la route. On faisait des milliers de kilomètres.
Va de village en village.
Voilà. J'ai découvert des régions en France que je n'imaginais pas. J'ai découvert comme ça la Lozère, où je suis retourné en vacances, ou l'Aveyron, ou des régions où il n'y a pas de stade de foot. En tout cas, pour le haut niveau. Et il n'y a que le cyclisme qui permet ça, en fait. Et vous êtes dans une communauté nomade, itinérante, avec des confrères avec qui vous liez de vraies amitiés, parce que vous êtes dans les mêmes hôtels, vous voyagez avec eux et avec les coureurs.
Bien sûr.
Parce que contrairement au foot,
c'est un sport de proximité.
Je me souviens, en Coupe d'Europe, au foot, on disait surtout, le club te disait, tu réserves pas l'hôtel où on est, comme si on allait déranger les joueurs. Mais le vélo, on était dans la chambre à côté du coureur. Hein. On vivait ensemble, en fait. Donc, c'est ce côté itinérant qui m'a tout de suite plu. Puis la difficulté de ce sport, quoi, qui se dispute par tous les temps. Bon, maintenant, ils ont des bus.
Oui,
luxueux, c'est des vestiaires. Qui servent de
vestiaires. Hein, les bus, hein.
Mais je me souviens de la fin de cette époque où les gens se changeaient parfois sur le trottoir, sous la flotte.
Hein. Oui, mais c'est vrai que les cyclistes sont encore accessibles quand même, hein, comme sportifs. C'est la nature même du sport, sauf peut-être le Tour de France.
Oui, c'est ça.
Un peu plus compliqué.
En fait, aujourd'hui, il faut raisonner en grands événements, quel que soit le sport. Hein. Là, les Jeux Olympiques approchent, bien sûr. Je pense que aujourd'hui, si vous voulez voir un spécialiste du tir à l'arc, ça, c'est pas compliqué.
Oui.
Mais vous le verrez, vous lui parlerez pas comme ça pendant les Jeux.
Ah oui, c'est sûr.
Même si c'est un sport entre guillemets mineur, enfin, qui peut devenir important pendant les Jeux. Donc, d'où l'importance de faire des interviews très en amont, d'avoir une vraie connaissance de ces champions. Donc aujourd'hui, dans le Tour de France, effectivement, c'est quand même très difficile. C'est assez difficile d'obtenir une interview, je dirais, individuelle. Hein.
Oui, bien sûr.
Exclusive. Bien sûr, c'est toujours... Il y a les points presse, il y a des interviews tous les jours. Mais là, vous êtes avec 15 télés, 20 radios.
Bah, comme ça se fait partout maintenant sur les gros événements. Hein.
Oui,
qu'on appelle ces fameux poules. Hein.
Oui, des zones mixtes. Oui.
Alors après, il y a le passage à l'équipe. Pourquoi et comment?
Bah, en fait, je pense que je me suis souvenu qu'à 13 ans, je lisais l'équipe. Quoi.
Ah, oui.
Donc, ça reste... Oui, on peut dire que c'est un rêve.
On vient vous chercher ou vous postulez?
Ah non. C'est très rare qu'on vienne vous chercher.
Oui, non, moi, jamais.
J'ai connu un jeune il y a 10 ans, un vrai talent.
Ouais.
Le Parisien voulait le recruter, il a dit non. L'équipe voulait le recruter, il a dit non, il est parti à Canal+.
Ah ouais?
Mais ça, des gens comme lui, il y en a un tous les 10 ou 20 ans, je pense. Non, j'étais candidat. Et puis, en 1995, j'ai intégré la rubrique cyclisme.
D'accord, que le vélo.
Cette fois-ci, c'était très, très spécialisé à l'époque.
Ouais.
C'est-à-dire, il n'y a plus question de faire de rugby, de ski, de suivre le foot. C'était que ce sport, mais avec beaucoup plus de déplacements, des grands tours en Italie, en Espagne, où vous partez un mois, en fait. Hein,
bien sûr.
En voiture pendant un mois, où vous avez un chauffeur. Hein, mais pendant 3 semaines et demie, parce que ça dure 3 semaines, un grand tour, vous êtes avec la même personne. Alors, il faut bien s'entendre.
Ah oui,
parce que tous les soirs, vous êtes avec la même personne.
Mais c'est des chauffeurs payés par le tour de...
Ce sont des salariés.
Ils sont payés.
Des salariés.
C'est leur métier.
Enfin, à l'époque,
quoi.
Des salariés, maintenant. Oui. C'est plus tout à fait ça.
Oui.
Mais bien sûr qu'ils sont là uniquement pour vous. Et c'était un luxe extraordinaire. Hein.
Bien sûr.
Parce qu'il y avait certains journaux... on retrouvait ça dans les grands journaux comme la Gazzetta dello Sport en Italie, comme Marca en Espagne. Mais sinon, les autres devaient se débrouiller. Hein, souvent. Donc, on avait une voiture pour nous, on était privilégiés, oui, ça c'est sûr.
Et vous quittez l'équipe en quelle année?
Il y a deux ans.
Pourquoi? C'est la retraite normale ou
Non.
Allez, on dit on veut faire autre chose, on veut finir autrement.
Non. Oui, voilà. Les choses ont quand même pas mal changé. Hein.
C'est sûr.
Après, il ne faut pas décourager
les jeunes qui arrivent.
Les jeunes qui arrivent, surtout pas. Hein. Parce que, à chaque époque...
Il y a l'arrivée d'Internet, quoi. Ça posait problème.
Oui. C'était moins... C'est un peu... Alors, il faut aussi savoir que le déplacement sportif coûte très cher. Donc, les journaux gagnent moins d'argent, donc les budgets sont plus serrés, donc moins de déplacements. Autrefois, quand je faisais le foot, on allait sur énormément de matchs de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, beaucoup de matchs sont faits depuis la télé.
Oui, on regarde la télé, puis on fait sur l'Internet le papier.
Voilà.
Quoi.
Et c'est vrai que l'Internet, c'est quelque chose d'assez lourd. Hein. Les footballeurs appelleraient ça l'entraînement invisible. C'est-à-dire que c'est ce que les lecteurs ne voient pas, mais quand ils lisent, quand ils prennent leur téléphone et puis ils lisent toutes ces informations, derrière, il y a des gens qui sont là pendant des heures derrière un écran à récupérer des dépêches, à récupérer des tweets, à récupérer des infos, à rebâtonner tout ça. Et c'est extrêmement lourd.
Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un soulagement, quelque part.
Oui, disons que... j'étais très heureux de partir et j'étais pas malheureux. Pardon. Très heureux d'entrer, et pas malheureux de m'en aller. Mm-hmm. Voilà, on va dire ça comme ça.
Oui. Et aujourd'hui, bah, vous continuez donc pour écrire, mais vous écrivez essentiellement des livres. Vous êtes écrivain de sport finalement.
Oui, écrivain, le mot est un peu fort, mais
quand même.
Mais c'est un bon prolongement.
Oui, oui, oui.
C'est un bon prolongement. Hein.
C'est l'année du cyclisme tous les ans.
Ça s'appelle le Livre d'or du cyclisme.
Oui, le Livre d'or, oui.
Donc c'est une collection. D'ailleurs, c'est presque vos voisins. Hein.
Ouais.
Parce que c'est Solar à Avenue de France. Vous
voyez, effectivement.
Donc, est à 5 minutes à pied, qui édite donc beaucoup de livres de sport.
Oui, il y a toutes les il y a le foot, il y a le rugby.
Voilà, alors
y a
le Livre d'or, c'est une collection
y a le tennis,
qui date des années 70 déjà, qui était fait par les anciens. Et voilà,
c'est souvent des livres qu'on offre en fin d'année.
Oui, voilà, de Noël. C'est des collections.
Voilà, c'est ça.
Oui, alors effectivement, c'est foot, rugby, Formule 1, moto, basket, je crois. Voilà. Et je pense qu'écrire, écrire pour moi, ça reste essentiel.
Bah oui.
J'ai un ami qui, dans presque un mois, va avoir 99 ans. Jacques Augendre, c'est le plus ancien journaliste.
C'est une référence. Hein.
Oui. Et ce monsieur écrit toujours.
Oui.
Alors, je ne dis pas que c'est simple. Hein.
Bah oui.
Et puis, un jour, il m'a dit ça il y a quelques années, il m'a dit, si j'arrête, c'est terminé.
J'ai d'autres confrères qui l'ont dit, ça.
Voilà. Donc c'est pour lui c'était stimulant.
Ouais.
Il écrit sans savoir s'il va être édité.
C'est un style, hein, c'est une façon.
Ah,
beaucoup prennent des Facebook et puis ils écrivent sur les Facebook histoire d'écrire.
Notre ami commun Guy Michelin.
Oui, bien sûr. C'est Guy qui me l'a dit. C'est pour ça. C'est Guy qui me l'a dit. Ouais.
Mais alors et puis l'autre jour Jacques m'a dit tu sais ce que disait Frédéric Dard alias Sant'Antonio, il m'a dit l'avantage de la retraite c'est qu'elle nous laisse le temps de travailler.
Ça, c'est vrai.
Donc, maintenant, je fais des bouquins, puis je n'ai plus de chef. C'est bien aussi,
de ne
plus avoir d'hiérarchie. Alors, il y a toujours quelqu'un qui... Enfin,
Surtout, quand on écrit sur l'année, on est un petit peu moins pressé par le temps. Quoi.
Alors, il ne faut pas prendre de retard.
On sait qu'on doit sortir.
Mais si vous n'avez pas envie d'écrire aujourd'hui, vous n'écrivez pas. Mais moi, j'écris tous les jours, de toute façon.
Oui. Et il y a une époque, il y a un moment où on écrit, parce que je sais qu'il y en a certains qui préfèrent écrire le matin, d'autres le soir, d'autres la nuit.
Exactement. Moi, j'ai toujours été fasciné par la technique et la façon de faire là je parle des grands écrivains.
Oui.
Est-ce qu'ils écrivent le matin? Est-ce qu'ils écrivent l'air?
C'est exactement ça. Pilcha, des fois,
donc, dès qu'il y a une émission un concours, raconte sa manière de... C'est fascinant, je trouve.
Ouais.
Alors, autrefois, c'était plutôt jusqu'à 2h du matin. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ça serait plutôt à partir de 6h30 du matin.
Ah, d'accord.
Mais ça, c'est un rythme
Après, chacun. Ouais.
C'est un rythme... Je dors pas beaucoup, je pense. C'est un rythme, voilà. Et puis, je trouve que le matin, on est plus frais. Mais c'est une manière... Chacun sa façon.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, à 22-23 heures, j'ai beaucoup de mal à écrire.
Oui, donc...
Mais à 6h30 du matin, 7h, c'est pas un souci.
Alors, vous écrivez aussi sur un blog, j'ai vu, c'est les villes des trois sœurs. C'est trois villes qui vous sont chères.
Oui, alors c'est un petit site que j'ai créé ça fait 7 ans maintenant, puis complètement bénévole.
Oui.
Alors, je me suis quand même beaucoup interrogé à l'époque, parce que j'ai des copains aussi qui travaillent dans... qui dirigent deux hebdomadaires de la région, dans le Val-d'Oise, Mais je me suis dit, oh là là, c'est pas bien peut-être
pas
d'écrire...
Pas faire concurrence,
Alors, ça aurait été prétentieux c'est ce que je me suis dit, c'est prétentieux de penser qu'il y ait une concurrence, qu'il n'y en a pas, mais c'était d'offrir la gratuité, alors que quelque part, je suis un peu contre la gratuité. Parce qu'il y a beaucoup de travail derrière Internet.
Bien sûr.
Et les gens c'est logique pour eux de payer le faux filet qu'ils vont acheter chez le boucher, mais ce n'est pas logique de payer, dans l'esprit de beaucoup, travail d'un journaliste qui a demandé pourtant beaucoup d'heures pour faire un article, parce que ça ne se fait pas comme ça, un article.
Non, il y a des recherches à faire parfois.
C'est beaucoup d'heures de travail dans l'interview, dans la préparation d'interview, dans la rédaction. C'est un vrai travail, quoi. Et je trouve qu'on a un peu désacralisé tout ça en pensant que l'information est gratuite. Ben non, elle n'est pas gratuite. Alors moi, c'est gratuit parce que c'est modeste. Ça concerne trois villes de chez moi, oui, Beaumont-sur-Oise.
Oui. Et qui, je crois, sont reliés par un pont, c'est ce que j'ai lu.
Alors,
c'est ça, hein.
Beaumont et ouais. Persan oui. sont reliés par un pont. Persan a été longtemps avec le club BIC,
oui.
le meilleur club français.
Oui, Patrick Thévenard, Anto, tout ça.
Voilà, ouais, les Thévenard, les Blanchardon,
ouais,
exactement.
Ouais, ouais, ouais. Tout plein, ouais.
Le Bras, mmh. Même Miguel Martinez, mmh. quand il est mmh. champion olympique, il est à Persan, etc. Et puis Chambly, il y a quelques années, si vous vous intéressez au foot.
Avec Jean-Michel Rouet.
Voilà, a quand même été en Ligue 2.
C'est une ville d'équipe.
Une ville de 10 000 habitants
ouais, ouais, ouais.
qui a atteint la Ligue 2.
Ah oui, 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 Chambly.
Bon,
oui,
là,
oui.
ils sont redescendus malheureusement.
Oui. Mais ils ont joué une demi-finale de Coupe de France même.
Et ils ont joué ouais, contre les Herbiers, une ouais, demi-finale ouais. de Coupe de France à Nantes devant 30-40 000 ouais, personnes. Donc c'est des histoires assez incroyables. Mmh. Mais alors là, le but, c'était aussi de sortir un peu du sport, hein, ce
oui,
petit site.
Oui. Et vous êtes correspondant aussi local, justement, pour la Nouvelle République.
Voilà. Ouais. Depuis un an, j'ai une petite ouais. maison qui mmh. a 200 ans dans mmh. le nord de la Creuse. Mmh. Et puis, je me suis dit, c'était pas pour écrire encore, parce que, ça va, hein, entre les livres, le truc, ouais. j'ai suffisamment à faire. Mais je me suis dit, pour m'intégrer, pour parler avec les gens.
C'est vrai, en plus.
Parce que la maison, au début, c'était pour écrire les bouquins, entre, je dis toujours, entre un troupeau de vaches et... une grange, parce que c'est exactement mmh. ça. Hein. J'ai une grange d'un côté et le troupeau de vaches de l'autre. Mais je me suis dit, mais quand t'écris toute une journée tout seul, bah, au bout d'un moment, t'as quand même envie de parler avec des gens.
Hein. Ouais.
Parce que ça fait partie du journalisme. Hein. Mmh.
Le contact, bien sûr.
Oui, ou d'abord s'isoler pour écrire, hein. Même si j'adorais écrire dans les cafés. Mmh. J'aimais pas écrire dans une chambre d'hôtel, j'adorais le bruit des cafés.
Ah, d'accord.
Je préférais entendre un bruit que le silence.
Oui, oui, oui.
C'était plus stimulant. Mmh. Et donc, j'ai vu que l'ANR cherchait un.
Ce qu'on appelle des correspondants.
Donc, on dit l'ANR, il cherchait un correspondant sur Sainte-Sévère, le pays de Jacques Tati.
D'accord.
Tati a tourné jour
Jacques
de fête.
Tati, ouais. Non, d'accord.
Et bon, tout le monde ne connaît pas forcément. Mais
non, mais ouais, c'était, on connaît jour de fête, mais on ne savait pas que c'était tourné là-bas. Quoi.
C'était à Sainte-Sévère. Ouais. Il s'est réfugié pendant la guerre dans un village à côté de Sainte-Sévère. Il avait promis aux habitants de revenir et de tourner donc, ce jour de fête. Et ça m'a permis de rencontrer des gens.
Bien sûr.
C'est surtout ça, en fait.
Oui, oui, non, mais bien sûr.
Et puis de
sûr.
Rencontrer. De sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort. Là.
Mais
il n'y a pas de confort en ce métier.
C'est de la proximité, hein. C'est ça le journalisme.
Donc, je
ne
suis pas d'accord
départ,
avec la zone de confort. Ouais. C'est toujours difficile. Même...
Et donc, ça vous emmène, vous l'avez dit, à sortir un petit peu du sport.
Oui, oui, ça m'a permis de...
Salon de l'agriculture, sur Paris.
Le salon, en plus, à côté de chez moi, là, à Paris. Comment dire, à Sainte-Sévère, j'ai fait des interviews de Claude Lelouch, Danny Dupéret, de Francis Perrin.
Ah oui, quand même.
Ouais, alors, ouais, ouais. Parce qu'ils venaient pour les festivals.
Oui, oui, oui.
Mais moi, j'arrivais comme ça. Je ne suis plus face à un sportif que je connais. Hein.
Mm-hmm.
Et comme je ne suis pas du tout cinéphile, il faut bosser avant. En fait, il faut toujours bosser.
Eh oui.
Faut bosser, faut pas arriver les mains dans les poches. Hein, quand vous allez voir Lelouch ou... Alors évidemment,
écoutez bien les jeunes journalistes.
On connaît quand même un minimum de son œuvre. Hein.
Oui, oui,
mais,
bah oui.
Mais quand vous voyez... Et puis là, j'ai vraiment apprécié la... par rapport à certains sportifs où c'est pas facile maintenant.
Pourtant, le milieu du showbiz...
Oui, oui. J'ai apprécié par exemple le côté très nature d'Annie Dupéret.
Oui.
Une femme extraordinaire.
Oui, ça m'étonne pas trop, mais enfin... Bref,
extrêmement accessible, qui vous file son numéro, vous l'appelez. Elle a une maison en plus dans le coin, à sortir d'un tournage à près de 80 ans quand même. Hein,
ouais.
Enfin, 70 et quelques. À sortir d'un tournage très dur, là, elle m'avait raconté, avec un loup. Le film est sorti, là, je crois. Et dans le Massif Central, voilà. Et donc, moi, c'est comme des sportifs, ces gens-là. Parce qu'à 80 ans, ils vont jouer, ils retournent sur une scène, ils se mettent aussi en danger, quelque part.
Bien sûr.
Donc, ouais. Ils me font penser à des sportifs.
Mm-hmm. Alors, vous avez eu plusieurs prix, quand même, non ? Au niveau de l'écriture.
Oui.
Tiens, ça va, on va faire un petit coucou à notre ami Étienne Bonamy, que vous connaissez.
Oui,
hein.
Oui.
Il
oui,
est prix Antoine Blondin et prix Louis Nucera. Donc, c'est pas rien, quand même, hein, pour
oui,
son
oui,
roman
oui, oui, oui.
dont on avait parlé, Les Forcés de la route.
Oui, oui.
Ouais.
Et puis, bravo à lui, parce que... Alors, c'est un livre historique, hein.
Oui, oui,
mais,
sûr.
Mais sur le cyclisme, oui, qui n'est pas son sport, en fait.
Non, 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 et qui peut être adapté pour le cinéma, un jour. Hein.
Ouais, ah, ouais, ouais, bah, très bien. Lui, c'est un spécialiste du foot, et
oui,
puis il fait d'autres sports.
Oui, après le sport olympique,
mais,
oui.
Bravo, puis ça prouve bien aussi. Moi, on pense toujours que c'est les bouquins qui marchent, c'est sur les champions actuels.
Non.
C'est sûr que si vous faites aujourd'hui Mbappé, ou vous allez...
Ouais.
vendre des milliers et des milliers. Mais finalement, là, ça raconte donc l'époque de la... C'est pendant la guerre.
Oui, c'est pendant la guerre.
Et ça veut dire que ce sont des bouquins qui peuvent...
Oui, parce que
ça
dépasse le cadre du sport en plus. Hein.
Ça dépasse le cadre du sport. Oui.
Mmh. Quels sont les sportifs ? Alors, je sais que vous êtes très copain avec Julien Alaphilippe. Quels sont les sportifs ou sportifs qui vous ont marqué ? Parce que fatalement, c'est un métier de rencontre, donc il y a toujours quelques situations qui marquent et même des événements importants. On parlait, tiens, tout à l'heure des Jeux d'hiver de Lillehammer.
Oui.
Ouais. Ça vous a marqué quand même ?
Ah ben oui, ces Jeux-là m'ont marqué. Un sportif en particulier, je crois pas, je me souviens plus, mais c'est plus la nature des jeux qui m'ont marqué parce que c'était des jeux incroyables. Quoi.
Ah oui.
Bah, j'ai l'impression que c'était des jeux dans la forêt.
Ouais, ouais, ouais.
On dormait d'ailleurs dans des chalets. Alors là, pour la première fois, j'ai rencontré des températures à moins 25. Et j'avais l'impression d'avoir un peu froid. Et je voyais les supporters norvégiens sur le bord de la piste de ski de fond. Parce que là-bas, le ski de fond, c'est le foot chez nous. Hein. Mm-hmm. C'est la même chose. Hein. Qui avaient passé la nuit sous une tente pour avoir une bonne place le lendemain.
Ah oui, oui, non,
il faisait moins 25 le matin.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Donc, une passion extraordinaire pour le sport. Un public extraordinaire aussi. Mm-hmm. C'est plus cette, l'ambiance
ouais,
que...
C'est ça. Ouais. C'est un petit peu comme le Tour de France, cette ambiance chaque été.
C'est
il y a l'exploit sportif aussi sur le Tour. Hein.
Oui, oui, bah, l'ambiance du Tour, c'est différent. Hein.
Mm-hmm.
Ça a beaucoup changé aussi.
Ouais.
Ça a pas mal changé déjà depuis l'an dernier, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'ai passé que 3-4 jours sur le Tour l'an dernier, j'ai pas pu, et c'était pas en montagne.
Vous avez fait combien de tours
27, j'ai suivi.
Tours de France.
27 et demi. Mais je dis ennemi parce qu'il y en a un où j'ai remplacé mon chef.
Ouais.
À mi-parcours. Mais le Tour a beaucoup évolué dans le public depuis l'an dernier, grâce à la série Netflix
qui a popularisé
auprès de...
Et ça a surtout attiré une nouvelle clientèle.
Une nouvelle clientèle, jeune, pas forcément connaisseuse.
Oui, bien sûr.
Et puis la plateforme TikTok, voilà, qui a fait venir incontestablement des jeunes... qui ne sont pas forcément des connaisseurs, mais qui ont vu aussi l'occasion de faire la fête.
Oui, c'est ça, comme s'ils allaient au foot.
Ouais, sauf que là, ils restaient 2-3 jours dans un col, entre copains, ils campaient, ils s'amusaient, puis il y a le Tour. Ouais. N'oublions pas, spectacle complètement gratuit.
Oui. Bah
donc,
oui,
vous pouvez rester. Vous...
C'est la force du vélo, hein, ça. Hein.
Voilà, c'est la force du vélo.
Ouais, ouais.
La force du Tour.
Ouais. Mmh. Alors, avec aussi votre carrière, il y a eu des événements un peu plus dramatiques. Vous étiez à Furiani, un rescapé de Furiani, quand même.
Mais justement, j'ai retrouvé Gilles Verdez il n'y a pas très longtemps.
Oui, je l'ai vu. Chaluna.
J'étais un peu surpris d'être invité.
Ouais. Mmh.
Tiens, où je vais mettre les pieds, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc
on en avait parlé, ça a traumatisé Gilles, beaucoup de jeunes quand même. Hein, ça a beaucoup... Jacques Vendroux qui était venu ici, ça l'a traumatisé quand même. Hein.
Oui, bah oui, oui, oui.
Ouais.
Et puis en plus, l'émission c'était au mois de janvier, je crois. Et un mois plus tôt, je lui ai rendu un hommage parce que j'avais. Je dis toujours, c'était mon voisin de Furiani, c'est Rémi Zaka, qui a fait toute sa carrière à l'agence France Presse, beaucoup en football. Qui est décédé, voilà. Lui a été vraiment très très atteint.
Ouais, ouais.
Et voilà, on avait le même âge.
Ça a marqué ça a marqué quand même.
Bah moi ça a marqué, mais ça m'a pas dégoûté du foot.
Non.
Je suis retourné même à Bastia.
Oui.
Dans un nouveau Furiani, une dizaine d'années plus tard.
Mmh.
Et malheureusement, c'était un Bastianis. Alors ceux qui
c'est chaud, hein, voilà. Les Bastianis,
quand on connaît
c'est
le foot,
chaud, hein.
On sait que, sait que, alors peut-être plus aujourd'hui parce que Bastia est descendu.
Ouais, mais c'est chaud. Hein.
Mais il y avait une tradition de autrefois quand il n'y avait pas d'université en Corse, en fait tous les supports, tous les Corses, les jeunes Corses,
allaient
à la fac à Nice. Hein.
Ouais.
Et puis voilà, il y avait une grande rivalité. Et là, ce match-là à Furiani. Les supporters corses attendent les supporters niçois qui se battent à la sortie du ferry. Et puis le soir, les Niçois leur rendent l'appareil. Et c'est un désastre dans ce stade.
Ouais.
les gens se battent. Quand je suis sorti, pas très loin du monument d'ailleurs de la Stèle,
en mémoire des
victimes, j'avais un pavé énorme sur ma voiture. Et je me suis dit, des gens sont morts dans ce stade il y a 12 ans. Parce que c'est ça, je crois que c'est 92-2004. Et 12 ans plus tard, on s'est à nouveau battu dans ce stade. Mmh. Enfin, on s'était pas battu en 92.
Non, ce sont des tribunes qui sont
écroulées. Et je me suis dit, mais c'est ça qui m'a le plus... Finalement, c'est ça qui m'a marqué, peut-être.
Mmh. Ouais. Mmh. Allez, on va écouter une petite pause musicale. Tiens, on vous a dédié une chanson Yves Montand à bicyclette. Mmh. Allez, on l'écoute et ensuite, on va enchaîner sur le badminton et puis ensuite, le patinage artistique avec Vanessa.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins.
Allez, comme convenu, on va enchaîner maintenant sur le badminton. Vanessa, on avait diffusé les interviews la semaine dernière de certaines lauréats et lauréates. Hein. On va compléter et finir notre dossier avec deux grosses interviews. La première interview, c'est celle d'une bénévole que tu as voulu rencontrer.
Tout à fait, Myriam, une bénévole avec un parcours très intéressant et qui sur place, donc sur les internationaux de badminton, était responsable des médias, de l'accueil des médias. Ben, on va écouter son interview.
Et je crois savoir qu'elle sera aussi bénévole sur Paris 2024. Hein. Exactement. C'est ce qu'elle dit dans l'interview. Ouais. Allez, donc on écoute Myriam.
Bonjour Myriam, merci d'accepter cette interview pour Mon Paris FM, dans l'émission Mon Paris Sport. Est-ce que tu peux te présenter ?
Merci à vous de m'interviewer. Alors, Myriam Enmer, 26 ans. Je travaille à la ville de Paris, au conseil de Paris, à l'hôtel de ville. Et là, je suis bénévole au Yonex IFB 2024.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle justement sur ces internationaux de badminton ?
Oui, alors je suis assistante aux médias, donc j'aide à ce que les journalistes se repèrent, notamment dans cette nouvelle salle, l'Adidas Arena, où auront lieu les Jeux Olympiques de badminton 2024. Je veille au bon fonctionnement de la zone, le salon presse, l'orientation des journalistes et des joueurs en zone mixte, après les matchs, des joueurs, bien les orienter et faire en sorte que tout se déroule bien.
Et pour
quoi, pour toi, c'est quoi cet engagement pour le bénévolat? Qu'est-ce que ça représente?
Ça représente, en fait, c'est une richesse pour tout le monde, je pense. D'un côté, ça aide l'organisation, ça les dépanne beaucoup. C'est super important d'avoir des bénévoles dans, là, c'est un événement sportif, mais dans n'importe quel autre événement, n'importe quelle autre association, c'est vraiment très important. Et ça, nous, de notre côté, en tant que bénévoles, on fait vraiment plein de rencontres. Là, j'ai fait vraiment énormément de rencontres. On apprend, on a de nouvelles compétences et on sent utile, on sent qu'on a besoin de notre aide. Et ça, on ne l'a pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment une richesse de tous les côtés. On aide et en plus, nous, on se sent bien, on se sent utile. Donc, c'est 100% gagnant.
Et ton parcours en tant que bénévole, justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail?
Oui, alors moi, je suis joueuse de raquetlon. Raquetlon, discipline combi tennis de table, badminton, squash et tennis. Voilà, l'enchaînement des quatre. Et je suis déjà bénévole au sein de l'association Raquetlon France. Donc, je fais partie du bureau et du conseil d'administration. Et également bénévole à la Fédé internationale de raquetlon. Donc, je suis aussi, je fais partie du conseil de la Fédé internationale. Concernant les IFB, c'est ma première participation ici, donc au badminton, mais je pense que ce ne sera pas la dernière parce que ça me plaît déjà beaucoup, donc peut-être sur un autre rôle ou peut-être sur le même, à voir selon ce qui est proposé.
Justement, dans ce parcours de bénévolat, tu as d'autres projets, peut-être les Jeux Olympiques?
Oui, alors exactement, évidemment, donc les Jeux Olympiques, je pense que tout bénévole dans n'importe quelle association sportive avait comme objectif les Jeux Olympiques. Donc moi, je vais être aux Jeux Olympiques à Roland-Garros. Donc ce sera, donc c'est pas du bad, c'est pas du tennis, pendant normalement 15 jours. Donc j'ai hâte de faire partie de ce grand événement international.
Juste avant, tout à l'heure, tu m'as confié que tu avais commencé par le tennis. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de pratiquante?
Oui, alors le tennis, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 11 ans, 12 ans, je suis allée au Pôle Espoir de Dijon. Je vais passer 6-7 ans là-bas de pratique. Donc voilà, sport-études à fond, quoi, 15 heures par semaine, les tournois, etc. Je suis montée jusqu'au niveau moins 15, donc aux portes du top 60 français. J'avais commencé à faire quelques tournois à l'international, des 10 000, 15 000 dollars, etc. Donc, titre de championne de France junior en double, 17-18 ans. Et malheureusement, financièrement, c'est compliqué quand on n'a pas vraiment d'aide, surtout au tennis. Enfin, n'importe quel sport où il faut se déplacer à l'international et avoir des entraîneurs. Et là, notamment, j'avais une petite aide de mon club. C'était déjà bien, mais c'est vraiment pas suffisant par rapport à ce qui est demandé. Surtout qu'on demande ça pas sur une année, mais plusieurs si on s'y engage. Donc après une année quand même sabbatique, j'ai quand même fait une année sabbatique après le bac. J'avais un an d'avance, j'en ai profité. J'ai commencé les tournois, mais je me suis arrêtée et j'ai repris les études, quoi.
C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui t'a... T'as commencé par le tennis. Qu'est-ce qui t'a amené vers le badminton?
Alors, pendant mes études, donc en STAPS, en troisième année, je pensais faire prof de PS. Bon, au final, je ne suis pas prof de PS aujourd'hui, mais je pensais faire prof de PS. Et au concours du CAPEPS, il n'y a pas tennis en option sport. Et dans ma tête, je me suis dit, ce qui se rapproche le plus du tennis, où j'aurais le moins de mal dans la pratique et peut-être dans la compréhension de la théorie, c'est le badminton. Pour moi, c'était entre ça et tennis de table, c'était le sport qui se rapprochait le plus. Et c'est comme ça que je m'y suis mise. Et je m'y suis mise en club vraiment assez d'un coup. Et j'ai fait une année où j'ai fait 100 matchs la première année. Donc pour rattraper un peu mon niveau que je n'avais pas par rapport au vrai optionnaire badminton. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le bad.
Justement, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coups principaux en badminton?
Oui, alors en badminton, il y a le service. Service qui peut être court, long, en revers, en coup droit. Le drive, ça c'est dès l'échauffement, on commence par faire du drive. Les dégagés offensifs, dégagés défensifs, ça c'est les frappes qui ressemblent à des smash mais qui ne sont pas piquées, donc plus au fond de court. Il y a les smash, du coup, smash, demi-smash. Au filet, on a les kills et les amortis, contre-amortis, et après coup droit et revers.
Là, on est sur la deuxième journée des 16e de finale. ton regard sur la compétition, toi qui connais bien justement les sports de raquettes et le badminton aussi en particulier.
Je trouve que c'est peut-être pas original, mais le fait que la salle soit toute neuve, toute fraîchement inaugurée là il y a à peine un mois, ça permet d'avoir des belles conditions de jeu là, c'est magnifique. Les joueurs, de ce qu'on entend dans les interviews, ils ont l'air à peu près tous contents. Et on a 4 beaux terrains, il y a du public qui est là, des scolaires qui ont pu se déplacer. Ce n'est pas les vacances scolaires, mais donc il y a cette possibilité d'avoir les scolaires. Donc il y a quand même une ambiance. Pour les matchs des Français, on espère qu'ils vont aller loin parce que pareil, ça rajoute un peu d'ambiance, un peu de suspense. Mais c'est génial et je pense que plus on va avancer dans les jours, plus il y aura du public et de l'ambiance. Et voilà, on a hâte de voir ces jours se dérouler.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, merci donc à Myriam, la bénévole. Jean-Luc, les Jeux Olympiques, vous allez les suivre comment ? Vous allez partir ? Vous allez quitter la région en spectateur ? Vous allez travailler un peu, non ?
Je n'ai jamais habité aussi près des Jeux Olympiques, parce que je ne suis pas très loin de la porte de Versailles.
Oui.
Mais en même temps...
Ça va être une immense fête quand même.
Oui, mais comme je n'ai pas de place, comme je n'ai pas de ticket... Je vais la regarder à la télé.
D'accord, ok. Bah, on demandera peut-être vos impressions.
Je vais la regarder à la télé, je vais juste rebondir parce que ce midi, donc j'ai déjeuné avec les anciens de l'équipe, association, et l'invité était Jean Galfione, champion olympique de perche. D'ailleurs, un personnage brillantissime pour raconter la perche et la voile, puisqu'il a excellé dans les deux, enfin surtout en perche. Et Jean Galfione dit que ce seront les plus beaux jeux de l'histoire.
Et
se dérouleront à Paris.
Il y a cette ambiance un petit peu morose. Là,
exactement. Ça fait plaisir d'entendre parce que je pense que c'était sincère. C'est un champion olympique.
Voilà. Et le badminton, c'est un sport que...
Je le suis un petit peu avec mon petit site. Parce qu'à Chambly, vous avez depuis 6-7 ans le meilleur club français. Vice-champion d'Europe.
D'accord.
3 ou 4 fois, plus en tête. Avec des joueurs assez extraordinaires qui viennent de plusieurs pays, et puis une salle qui a été inaugurée au mois de septembre seulement, qui est probablement, après celle qu'on a décrite.
Oui, l'Adidas Arena, on a eu l'occasion d'être à l'inauguration. C'est un super beau complexe. Super beau complexe. La Porte de la Chapelle, c'est très bien.
J'imagine.
Ça va servir pour le basket, mais ça servira aussi pour le badminton pendant les Jeux, mais c'est super.
Et donc, cette salle à Chambly, elle est dédiée au badminton. Elle est vraiment dédiée au bad. Exclusivement. Ouais. Alors, il y a un dojo à côté. Pour les arts martiaux, il y a une salle. Mais elle est exclusivement dédiée au badminton. Et donc, elle est dans le top 3 français des salles de bad, incontestablement.
Bon, Vanessa, en tout cas, elle en a pris plein les yeux. Elle s'est régalée. Et du coup, elle a tiré le bilan de cette belle semaine de compétition. Vanessa, avec Johan Penel, donc le président qu'on a vu au téléphone il y a quelques semaines.
Tout à fait, juste en amont de la compétition. Et puis, on l'a rencontré à la fin pour faire le bilan sur la compétition et puis aussi un peu sur les perspectives du badminton français.
Bonjour Johan Pinel, vous nous aviez reçu à la veille de l'événement. Aujourd'hui, quel bilan vous faites en conclusion de cet événement sur le parcours de l'équipe de France ?
Alors effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements de l'événement. Si on regarde spécifiquement nos équipes de France, voilà, on a un huitième de finale, un quart de finale. D'un côté, on peut se dire que c'est toujours décevant parce que devant le public parisien, on pourrait toujours attendre mieux. Dans le même temps, quand on regarde le tirage au sort, c'est déjà des belles performances puisque sur le double homme, ils font un magnifique premier tour face à une paire de champions historiques du badminton. Sur le double mixte, et ils gagnent un premier tour face à des athlètes de leur niveau puisqu'ils ont quasiment le même classement mondial. Et puis au deuxième tour, ils sortent la tête de série numéro 8. Donc voilà, on va dire que c'est évidemment encourageant. On rêve toujours de plus. Mais voilà, ça sera le bilan de cette édition-là. Et puis sur les 4 autres, effectivement, des adversaires plus forts. Et la hiérarchie a été respectée.
En termes de billetterie, quel bilan peut-être aussi vous faites pour cette première à l'Adidas Arena? C'était, on a changé de lieu, il y avait, on tombait aussi avec pas mal d'autres événements, mais ça, ça reste quand même un succès.
On sort donc effectivement en 18 mois, 3 Yonex IFB dans 3 salles différentes. On ne se rend pas compte hein, en termes d'événementiel, mais c'est un vrai défi pour les équipes à chaque fois de se réadapter à une nouvelle salle. On a fait Coubertin en octobre 2022, on a fait la Glace Arena à Rennes en octobre 2023, on fait l'Adidas Arena en mars 2024. Et à chaque fois, l'objectif, c'est de livrer l'événement le plus merveilleux qui soit, avec une billetterie toujours meilleure. Là, on sera globalement sur les mêmes chiffres qu'à Rennes, donc autour de 22 000 entrées, donc c'est mieux qu'à Coubertin. Voilà, on aurait aimé rêver encore plus, mais on espère que ces 22 000 spectateurs qui ont eu la curiosité de venir à l'Adidas Arena en parleront autour d'eux et que les prochains événements seront encore plus remplis.
Et justement, alors l'expérience des différents acteurs, les spectateurs, les joueurs, les différents bénévoles et toutes les autres délégations, quels ont été leurs sentiments? Et puis vous, peut-être aussi?
Alors, de notre côté, on a le sentiment du devoir accompli avec un événement qui a été livré dans des conditions compliquées, comme je le rappelais, mais aujourd'hui avec un spectacle extraordinaire, une salle qui met parfaitement en valeur notre sport. On a eu de l'ambiance, on a eu des très très belles affluences, notamment vendredi soir et samedi. Donc voilà, donc pour les équipes, c'est une vraie satisfaction par rapport à un cahier des charges qui, année après année, se complexifie au niveau de la Fédération internationale. Et puis là, en configuration de préparation pour les Jeux, évidemment, il y avait énormément de choses à regarder. Donc de notre côté, sentiment du devoir accompli. Côté COJO, bon, évidemment, ils s'exprimeront, mais les retours qu'on a, c'est que ça a été extrêmement riche en enseignements pour eux, pour préparer cet été. Et voilà, être totalement prêt dans une salle qu'ils connaîtront beaucoup mieux grâce à notre événement. Côté joueur, voilà, un plateau magnifique. Ce plateau qui a époustouflé beaucoup, beaucoup de spectateurs et même des habitués qui ont connu Coubertin, qui ont connu la Glace Arena. Mais là, c'était une autre dimension pour notre sport et on est très, très fiers que le badminton ait pu évoluer dans une salle de cette taille-là, avec cette scénographie-là. On est très, très fiers de notre scénographie. Et puis avec cette affluence-là. Après, voilà, il y a la question des flux d'air dans la salle qui a interrogé effectivement certains athlètes. On est pile poil dans le cahier des charges. Voilà, après, c'est justement tout l'intérêt pour les joueurs de venir se tester sur l'événement. C'est qu'ils auront vu les conditions réelles et ils seront prêts pour nous offrir le plus beau des spectacles cet été sur les Jeux Olympiques. Et puis les athlètes para, même s'ils n'ont pas concouru cette semaine, évidemment ils ont regardé ça d'un œil très attentif, puisqu'eux ils enchaîneront fin ou début septembre sur les épreuves de para-badminton.
Et pour justement, peut-être que ça vous donne des idées, des pistes pour notamment pour les Jeux, mais aussi peut-être pour réorganiser une compétition ici ou pour d'autres événements en France.
Alors effectivement, on est le badminton français brille par son engagement en termes d'événementiel de grande qualité à travers toute la France, puisque chaque année c'est 10 événements internationaux, 2 dans les territoires ultramarins et puis 8 sur le sol français. L'objectif, c'est de faire toujours mieux. Et c'est vrai que quand on livre un événement de cette qualité-là, on peut avoir l'impression d'être au bout du chemin. Et en fait, chaque année, les équipes se challengent pour faire toujours mieux dans l'expérience spectateur, même si ici, la salle était différente de ce qu'on pouvait avoir à Coubertin et à la Glace Arena. Les espaces ne sont pas du tout configurés de la même manière. Donc voilà, c'est des apprentissages à chaque fois. Maintenant, on a des championnats du monde en 2025. On aura des Yonex IFB comme tous les ans en 2025. Donc c'est prendre un maximum d'enseignements, savoir si cette jauge-là, c'est la bonne pour le badminton français, si le modèle économique de la salle peut correspondre avec le modèle économique de notre événement. Voilà, c'est riche en enseignements. Et évidemment, encore une fois, le but, c'est de faire découvrir le badminton à un maximum de gens et qui ressortent de la salle époustouflé par la vitesse, époustouflé par le déplacement, par le suspense. Et on l'a vu aujourd'hui avec les finales, il y a eu des retournements de situation. Le double dame, je crois que celui-là, il restera très longtemps dans l'histoire des Yonex IFB. Donc voilà, c'est faire toujours mieux, c'est dans notre ADN et pour les prochains événements, on aura à cœur d'aller sur ce chemin-là.
Merci beaucoup.
Et justement, pour l'année prochaine, est-ce que ça voudrait dire que Coubertin, ça reste la maison, mais que par exemple, pour un grand événement comme les championnats du monde, l'Adidas Arena, ça peut être la grande salle, on va dire, pour les grands événements, pour le badminton?
Alors, je vais faire une réponse de Normand. La décision n'est pas prise. Là, dans les deux mois qui viennent, il faudra qu'on choisisse la salle des championnats du monde 2025, forcément Paris ou très proche de Paris, et puis la salle des Yonex IFB qui sera en région. Et là aussi, voilà, c'est deux décisions qui sont importantes parce que il faut encore une fois regarder la jauge, regarder le modèle économique, regarder le potentiel de spectateurs. On a vu la Bretagne, c'est une terre de badminton, ils ont été capables de remplir une salle plus grande que Coubertin. Donc c'est tous ces paramètres-là, il y a l'accessibilité en transport et puis il y a voilà, des dynamiques territoriales. On va regarder, mais je vous dis, dans les deux mois qui viennent...
Voilà, on en reparlera et donc on en saura ça un peu plus dans les prochaines semaines. Donc Vanessa, juste un petit mot pour conclure.
Oui, il y aura les championnats du monde 2025 France l'année prochaine.
Ah, quand même, donc on peut penser que ça sera à l'Adidas Arena.
Il y a des possibilités, comme il l'a souligné. Après, il y a aussi le schéma économique du badminton, donc on verra où ça sera.
Juste avant d'enchaîner sur le patinage artistique, je voulais dire que c'est la semaine olympique et paralympique en France, du 2 au 6 avril. Donc il y aura tout plein de manifestations un peu partout au niveau de nos écoles. L'héritage des Jeux, c'est important. Jean-Luc, vous croyez que dans un pays comme le nôtre, ça va perdurer? Cet héritage, il va se faire entre le sport handicap, le sport scolaire, le sport féminin?
Mais j'espère, hein, de toute façon.
Ce n'est pas des promesses en l'air. Et
non, déjà, les grands championnats ont attiré, les grands champions ont attiré des gamins dès la rentrée. Hein. Les clubs ont eu plus de licenciés. Alors, j'essaye de me souvenir si c'est en rugby, si c'est forcément en
Le rugby,
foot.
Oui. Le rugby, après la Coupe du Monde,
Il y a eu énormément de... les Coupes du Monde, gagnées par les footballeurs français, idem. Donc là, les Jeux... Les Jeux, c'est encore autre chose. Bien sûr, on pourrait peut-être comparer à une Coupe du Monde, hein, mais par rapport à un championnat du monde, c'est ce que redisait Galfion ce midi, c'est qu'il n'y a aucune comparaison. C'est le sommet. Ouais. Donc, effectivement, les jeunes, les gamins en France qui vont voir des champions réaliser des exploits pendant les Jeux auront envie, quel que soit le sport, de prendre une licence dès le mois de septembre dans un club. Mmh. Et ça, c'est l'héritage des Jeux. Pour moi, il est là, parce qu'après, il y a un héritage dont je serais incapable de parler, c'est l'héritage économique ou le combien ça coûte. Mais en tout cas, pour le sport, c'est extraordinaire. Hein. On les a eu il y a 100 ans, on les aura peut-être dans 100 ans.
On les reconnaîtra plus, nous.
Ou peut-être en 2003. Ouais.
Pour les Jeux d'hiver, ça fait.
Nous,
on parle des Jeux d'été.
Oui, bien sûr.
Alors, tiens, justement, les Jeux d'hiver, Vanessa, elle a beaucoup travaillé. Je l'ai dit, elle est rentrée de Montréal ce matin. Pour des championnats du monde complètement passionnants, complètement fous.
Incroyable.
Il s'est passé quelque chose quand même d'insolite dans ces championnats du monde. Vanessa, tu vas nous en dire un mot.
Oui, tout à fait. Donc, avant la compétition, on attendait un combat entre les Japonais Kageyama, Uno, qui sont respectivement double vice-champion du monde et double champion du monde et qui ont aussi été médaillés olympiques. Et puis, Ilia Malinin, hein, le jeune prodige américain, et notre Français Adam Siahimfa. Sauf que au programme course, ça ne s'est pas tout à fait passé comme on l'aurait imaginé.
Il s'est complètement loupé.
Ouais, donc une chute sur l'un des quads, des sauts avec beaucoup de retournements, c'était compliqué. Et du coup, chaque erreur est fatale, hein, surtout au programme court. Vous pouvez vite vous retrouver relégué très loin. Donc, il termine 19e du programme court avec un score de 77,49. C'est quand même un étonnement parce que on n'imaginait pas ça. C'est vrai qu'il a eu une grosse saison. Et puis, dans le programme libre, Résurrection, Rédemption, il effectue un programme libre parfait. 4 quadruples sauts. Tout passe très bien.
C'est du jamais vu, ça.
Oui, oui, c'est du jamais vu parce qu'il passe de la 19e place à la 3e place du programme libre. Et puis, il termine 3e, il termine sur le podium. Il faut savoir qu'il passait en tout début de compétition, hein, donc, puisque le classement du programme libre, ça va du moins bien classé au meilleur classé. Et puis, il fait un programme incroyable. Donc, pendant longtemps, il a le lead. Et puis, arrive le dernier groupe, donc des meilleurs. Mmh. Vous avez le Suisse, Luca Brigi, qui a effectué un très bon championnat du monde. Mais surtout, l'enjeu, il est entre Kagiyama, Uno et Maninin. Et du coup, bah, honnêtement, déjà, on se dit il a remonté dans le top 10, c'est génial. Et puis, après, on se dit peut-être un top 5. Du coup, on voit les scores évoluer. Uno passe. Malheureusement, ça ne se passe pas bien pour lui, hein, le double champion du monde. Et puis Kagiyama aussi. Lui, Kagiyama réussit, hein, son compatriote. Donc, du coup, il passe devant notre Français. Et puis aussi, ça se finit aussi en apothéose avec Kylian Maninin, qui réalise un exploit historique. Donc, 6 quadruples sauts et le quadruple axel. Il est le seul aujourd'hui à réaliser cette difficulté. Avant lui, seul un Japonais avait réussi ça. Et surtout, il est le seul à l'avoir réussi, tenté et réussi. Mmh. Je veux dire, c'était historique, c'était incroyable, cette finale homme. C'est du jamais vu, moi qui suis ce sport depuis longtemps.
Ouais. À Montréal, hein, là où donc
à Montréal, dans le centre Bell, les grands.
Les hockeyeurs.
Voilà, ouais. Sport national au Canada, très grand, complexe.
Ouais. Centre Bell, oui.
Et puis complètement rempli, hein, parce que le patinage artistique, quand même, au Canada, bah, c'est certes un petit peu moins que le hockey, mais ça a quand
c'est
même
le pays des
très grande
quand même, hein.
Oui, ouais. très grande aura puisque c'est aussi l'épicentre mondial de la danse sur glace. Mmh. À Montréal, vous avez une très grande académie de danse sur glace et donc il y avait beaucoup de spectateurs évidemment très enthousiastes pour les Canadiens. On va faire aussi un petit point sur les autres résultats.
Et après, je voudrais demander, Jean-Louis, c'est un sport que vous avez couvert quand même, le patinage, quand vous avez fait les Jeux d'hiver. Hein.
Alors, c'est plus le hockey.
Oui, plus le hockey. Ouais.
Plus le hockey. Et d'ailleurs, j'étais impressionné parce que en Norvège, il y avait une patinoire qui était dans une grotte aussi. Ça avait été quelque chose absolument extraordinaire. Mm-hmm. Et on parlait de spécialistes. J'avais été impressionné par les journalistes québécois.
Ah oui.
Qui en fait traitait qui connaissait le hockey comme nous ici, comme
foot.
Nos spécialistes connaissent le foot.
Bien sûr.
Et c'était, ils voyaient ce que vous ne voyez pas, quoi, en fait.
Ah,
parce que le hockey, ça va un petit peu vite quand même. Mm-hmm. Donc j'ai suivi plus le hockey et le ski, moins le patinage, mais je me suis intéressé à travers Surya Bonaly à l'époque.
Vous n'avez jamais fait le Grand Prix de Montréal, cycliste ? Si,
moi j'y suis. Alors là, je suis envieux quand j'entends que notre consoeur revient de Montréal.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que j'y suis allé 4-5 fois.
J'ai fait le Grand Prix cycliste, quoi.
Ah oui ?
Oui, deux fois au mois de septembre.
Oui, oui, peut-être qu'on aurait pu se croiser.
Ouais, c'est bien.
J'y suis allé plusieurs fois.
Mmh. Mmh. Allez, les résultats donc des autres catégories.
Donc, sur les autres catégories, la première épreuve, c'était les coupes. C'est les Canadiens Dina Stelato-Doudek et Maxime Deschamps qui ont remporté la compétition. Avec, pareil, une grande effervescence pour leur victoire. Ils devancent les champions du monde japonais Miyahara, excusez-moi. Et les Allemands Minerva Fabienhase et Nikita Volodine. Mmh. Il y avait aussi un très bon couple hongrois. Et puis, on va passer à la danse sur glace. Donc, comme je l'ai dit, danse sur glace, c'est l'épicentre mondial de la danse sur glace, Montréal. Et donc, c'est les Américains Chuck Bates qui ont remporté la compétition. Ils étaient déjà champions du monde l'année passée. Mmh. Ils devancent les Canadiens Piper Gillis et Paul Poirier. Et les Italiens, Charlène Guignard et Marco Fabri. Mmh. Et puis enfin, l'épreuve féminine, Kaori Sakamoto, déjà deux fois championne du monde, a remporté son troisième titre. Elle rentre dans l'histoire, hein, puisque avant elle, seule Peggy Fleming, entre 1906 et 1968, avait aligné trois titres consécutifs. Et puis, elle rentre aussi dans le grand cercle quand même des grandes championnes, comme Katharina Witt, Michelle Kwan, Carol Heiss, qui a eu cinq titres consécutifs, mais ça, c'était plus dans les années 60. Et elle devance la jeune Isabelle Levito, qui est la grande étoile du patinage américain, et une très jeune coréenne de 16 ans, Cheon Kim. À noter également Kim Irépon, la Suissesse, cinquième, Et par contre, pour la Belge Luna Hendrik, ça ne s'est pas bien passé sur le libre. Elle termine 4e. Notre Française Laurine Chin termine 17e, mais avec un contrat rempli. En danse sur glace, je voulais juste rajouter que oui. Nos Français Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot ont terminé 8e. Pareil, contrat rempli. Et leurs compatriotes, Loïc Yademoujo et Théo Lemercier, également, ils sont 11e. Contrat rempli parce que la relève de la danse sur glace française est assurée. Et qui a vraiment de très belles choses. Ils ont réalisé leur meilleur score. C'était vraiment très bien.
Très bien. Juste, on rappelle le podium homme, simplement.
Donc, pour être complet. Le podium homme. Ouais. Ilia Malinin devant ouais. Yuma Kagiyama. Ouais. Et troisième à danse, Yao Imfa, la médaille de bronze. C'était une soirée incroyable. Du coup, on ne s'y attendait plus après la 19e place du programme court.
Très bien. Allez, on va écouter la deuxième pause musicale. Louis Armstrong, hein, c'est pas Lance Armstrong, hein, c'est Louis. Hein. La vie en rose, et ensuite on va passer à la rubrique foot et au journal des sports.
The magic spell you cast, this is love beyond rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love beyond rose.
Allez, on va maintenant passer à notre traditionnelle et hebdomadaire page foot. Je vais recevoir mon ami Stéphane Desenclos, le rédacteur en chef du quotidien du sport. Je sais qu'il est en bouclage. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir ouais. À vous tous.
Voilà.
Vous tous.
Ouais, et puis il y a un spécialiste foot ce soir, hein, notre ami Jean-Luc Gatelier qui va pouvoir intervenir. Mais non, Jean-Luc. voilà, on va revenir sur ce match de l'équipe de France. Donc, match perdu par, face à l'Allemagne, 2-0. Stéphane, on regarde beaucoup de matchs et c'est vrai quand même qu'il y a si longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi mauvaise. Hein, n'ayons pas peur
du match. Ouais. Mais bon, déjà, moi, vous savez, si c'était que moi, il n'y aurait pas eu de match. Parce que je trouve ça... À part faire un contrat pour les Bleus et gagner un peu d'argent, je vois, et puis bon, aussi faire jouer l'équipe de France en province. Personnellement, j'avais du mal à voir l'intérêt de ce genre de match. Comme Sud-Demain, ouais. Je ne vous en parle pas, Sud-Demain, c'est encore pire.
Oui, mais on sait que c'est traditionnellement le problème du mois de mars hein, pour les matchs amicaux. Ben ouais. Hein, c'est pas nouveau. Hein.
Voilà, surtout, en plus, là, il y a des. Bon, si vous prenez tous les profils des joueurs. Antoine Griezmann, pour commencer, il est à peine blessé, Antoine Griezmann, mais bon, à juste titre, c'est d'ailleurs une très bonne décision de la part de Didier Deschamps de ne pas l'avoir gardé en stage. Mais bon, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'il n'y a aucun joueur, d'après vous, est-ce qu'il y a un joueur qui a perdu sa place ou gagné sa place dans le groupe de l'équipe de France? Non, la liste de Didier Deschamps, elle est faite, il l'a déjà dit depuis longtemps. Donc, il n'a pris aucun nouveau. Donc, il n'y a personne à tester, à faire vivre. Ils auraient fait un stage entre eux à Clairefontaine pour se voir une dizaine de jours, répéter des schémas tactiques et tout. Je pense que ça aurait été aussi bien. Quoi.
Ouais. Sinon, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelques postes quand même où il y a peut-être des petits doutes encore pour Deschamps, comme je pense au poste d'arrière-droit, par exemple?
Oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et peut-être, par exemple, très certainement aussi en défense centrale, voilà, peut-être. Oui. Mais même s'il y a des doutes, de toute façon, le doute, il est où? Le doute de Didier Deschamps, il est Koundé, Pavard, Klos. Est-ce qu'il attendait France-Allemagne hier pour décider de qui va mettre titulaire? J'en sais rien.
Oui, Stéphane? Stéphane? Ah, ça a coupé. Ah. Oui, non, c'est bon, vas-y, je t'entends. Ouais, vas-y.
Je pense que c'est pas et encore nous on dit qu'il y a des doutes. Moi je suis même pas sûr qu'il ait des doutes. Hein. Je suis pas sûr que son équipe qui va commencer le match contre l'Autriche, le premier match de l'Euro, je pense qu'on la connaît pratiquement déjà quoi. Donc il y a pas beaucoup de doutes, surtout avec Didier Deschamps. Et à partir du moment où il y a zéro nouveau et tout, bon. Faut le jouer, c'est des dates. Mais moi, je trouve que c'est rien qu'avant, j'attendais strictement rien du tout de ce match.
Oui. Alors, il y a quand même quelques autres résultats qu'on a eus, comme les Pays-Bas qui ont battu l'Écosse 4-0, la Colombie qui est allée gagner en Espagne 1-0, victoire de l'Autriche devant la Slovaquie 2-0, le Brésil qui bat l'Angleterre 1-0, et puis l'Italie qui va gagner au Venezuela 2-1, sans oublier la victoire du Portugal devant la Suède 5-2. Mais ce sont des résultats qui, pour vous, ne veulent pas dire grand-chose?
Ah bah ouais, clairement, oui. Justement, ces résultats-là, ça, pour moi en tout cas, ça va tout à fait dans la thèse que je défends. Quoi. Je veux dire, l'Angleterre-Brésil, par exemple.
C'est pourtant des belles affiches. Hein.
Ça, le résultat est quand même bizarre. Après, les Portugais, vous savez ce qu'il avait fait Roberto Martinez au Portugal. Lui, il a convoqué 32 joueurs. Pour ça peut être ça, éventuellement s'il a besoin, mais bon, Didier Deschamps ne ressent pas ce besoin. Il a convoqué 32 joueurs, il a composé deux groupes de 23, donc bien sûr, c'est mathématique, hein, il y a des joueurs qui étaient dans les deux groupes pour les deux matchs. Par exemple, Cristiano Ronaldo, par exemple, il n'était même pas sur la feuille de match du premier de ce Portugal-Suède, par exemple. Et il y a un certain nombre de joueurs qui, à la fin de ce match, sont rentrés chez eux. Exemple, par exemple, Gonçalo Ramos, hein, le buteur du PSG. Et d'autres sont restés, par contre. Nuno Mendes, par exemple, il a joué une mi-temps contre la Suède. Il est resté, il fait partie aussi du deuxième groupe. Cristiano Ronaldo, lui, ne faisait partie que du deuxième groupe. Et puis, donc, il a fait ça. Donc, c'est un but de recherche, de joueurs et tout ça. Moi, je pense que Didier Deschamps, il est depuis 14 ans à la tête des Bleus. Il ne va pas, à deux mois de l'Euro, prendre des décisions, savoir qui fait jouer où et tout. Ça, je pense que c'est terminé. Ouais. Quoi.
Jean-Luc, vos impressions? Vous avez vu le match?
J'ai vu le premier but.
Oui. Ah bah oui, 9 secondes. Hein. Je sais pas. C'est bien.
Et surtout, ce que j'ai vu le plus beau ce soir-là, c'est le maillot de l'équipe de France.
Ah oui, magnifique. C'est vrai qu'il est beau ce maillot. Moi, je l'aime bien. Ouais.
Donc, je retiens uniquement la couleur du maillot.
D'accord.
Enfin, la couleur, ce bleu éclatant.
La prestation.
Il y a parfois eu des maillots bleus. Enfin, il était très foncé ces dernières années.
Oui, c'était. Oui, oui. Là, c'est un vrai
maillot. Ce qui est la mode. Mais je l'ai trouvé magnifique.
D'accord.
Bravo.
Alors, des faits importants quand même dans cette journée, Stéphane. Ce sont les matchs de barrage. Pays de Galles, Pologne, Ukraine, Irlande et Géorgie, Grèce. Ce sont les matchs qui se dérouleront donc mardi pour savoir quels seront les trois dernières qualifiées pour la phase finale de l'Euro. On va rappeler que la Grèce s'est très largement imposée devant le Kazakhstan 5-0. Le Pays de Galles en a fait de même devant la Finlande 4-1. Victoire nette de la Pologne devant l'Estonie 5-1. L'Islande qui va gagner en Israël 4-1. L'Ukraine qui a battu la Bosnie donc 2-1 en Bosnie. Et puis la Géorgie qui bat le Luxembourg 2-0.
Voilà, ça nous dit qu'on sait que l'adversaire le quatrième adversaire de l'équipe de France, ça sera le
Pays de Galles ou Pologne,
la Pologne Pays de Galles qui vont se rencontrer demain au Pays de Galles.
Ouais.
Donc peut-être avec un petit avantage aux Gallois, mais moi je mettrais bien quand même une petite pièce sur la Pologne.
Oui, donc sinon ça sera Ukraine, Islande et Géorgie, Grèce. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé mercredi au siège de Paris 2024. Hein. J'ai eu la chance de le vivre. Les tirages au sort des groupes pour le tournoi olympique. Pour les espoirs, la France jouera sur les USA et la Nouvelle-Zélande. Hein, et puis la Guinée ou un vainqueur de la zone d'Asie. On va rappeler d'ailleurs que les espoirs ont gagné en match amical devant la Côte d'Ivoire 3-2. Finalement, c'est un tirage somme toute assez bien pour l'équipe de France.
Ouais, c'est un bon tirage, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que ça vous a certainement pas échappé. Ouais. Si vous regardez la phase finale de ce tournoi olympique, l'équipe de France, qui elle termine première ou deuxième de son groupe, va croiser avec le groupe dans lequel on trouve l'Argentine, notamment l'Argentine, l'Ukraine et le Maroc. Donc, je ne sais pas si les trois vont passer.
Ça, c'est un groupe difficile.
Comment ça va se passer. Mais c'est des équipes olympiques espoirs redoutables. Les Sud-Américains, comme d'ailleurs Thierry Henry l'a expliqué de la conférence, ils ont quelque chose en plus dans ces compétitions-là, peut-être plus que les Européens. Donc ça serait très très dangereux. L'Ukraine qui a, ils ont pas gagné l'Euro Espoir, mais ils ont gagné l'Euro Espoir, donc ils ont battu en tout cas la France à l'Euro Espoir, je crois.
C'est l'Allemagne qui a gagné l'Euro Espoir.
Voilà, ils ont battu, donc la France en tout cas. Ouais. L'Ukraine avait battu la France, je crois, en quart de finale, non ? Ou en huitième, je ne sais plus. Je me rappelle d'un Ukraine-France. Donc bref, c'est des grosses équipes, donc ça va être très compliqué. Il va falloir se sortir du groupe. Bon, ça, je pense.
Alors, on va rappeler que ce sont les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés, plus les deux meilleurs troisièmes.
Voilà, exactement. Voilà. Alors après,
dans les quatre poules. Et après, il y a les quarts de finale, voilà, tout simplement.
Voilà.
Sur un seul match.
Voilà, donc c'est un peu... C'est un peu un foie mis, tirage. Ouais. Parce que ça risque de se compliquer en tout cas beaucoup en huitième de finale. Et comme on ne sait pas encore l'équipe que va avoir Thierry Henry.
Ah oui, ça je peux vous dire qu'il est à tâtons, Thierry Henry. Il ne sait pas trop. Hein. C'est un petit peu l'incertitude partout. Hein. Enfin, bon.
Ouais, on l'a bien vu. Hein. Je pense qu'il est. Il est peut-être focus sur le fait de. Il a l'air, lui, de toujours croire que. Ou penser que Kylian Mbappé va pouvoir faire les jeux.
Non, je crois qu'il ne croit plus.
Ce qui semble quand même de moins en moins probable. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est. C'est très. Je trouve ça très bizarre. Je ne le sens pas trop. Il ne sait pas. Quand aura lieu l'annonce, parce qu'il doit avoir des clubs et tout.
C'est-à-dire qu'ils vont aller faire du porte-à-porte avec le président Diallo, hein, c'est ce qu'ils ont dit pendant les interviews. Hein, et le problème, c'est que, voilà, après, faire du porte-à-porte, ça ne veut pas dire que ça va réussir. Ce qu'ils vont
pouvoir dire, par exemple, à Florentino Pérez, pour que si jamais il y a Mbappé, ou même s'il voulait, mettons que Lenny Yoro signe à Real Madrid, par exemple, s'il veut prendre les joueurs, qu'est-ce qu'il va leur dire ? S'il vous plaît, monsieur Pérez, soyez gentil, on a envie de gagner, on a envie de gagner et tout, quoi. Donc, je sais pas, ça me paraît très, très compliqué, cette histoire, quoi. En dehors de. Nous, on avait annoncé, je sais qu'il y a des contacts entre Payet et la Fédération française, en dehors de Payet, Kanté, des joueurs comme ça, je vois pas trop.
Oui, c'est ça le problème. Peut-être Gignac, on verra bien. En tout cas, chez les femmes, ce sera les deux premiers de chaque poule qui seront qualifiés, donc directement en quart de finale. Et pour les femmes, ça va être un petit peu plus relevé quand même, hein, puisqu'elles vont jouer le Canada, qui sont les tenants du titre, la Colombie, dont Hervé Renard a dit qu'il fallait se méfier, et la Nouvelle-Zélande, comme pour chez les hommes.
Ah ouais, ça va être... De toute façon, vous n'avez pas trouvé un sélectionneur qui va vous dire que ça va être facile. Hein.
Non, bien sûr. Ne serait-ce que par respect pour les équipes.
Hein. Voilà, ouais. Donc, ça, c'est sûr que tu vas dire ça. Donc, on va bien voir. De toute façon, moi, je vous avoue, franchement, j'accorde très, très peu d'importance et d'intérêt au tournoi olympique de foot. Je pense que le foot a pas, on a déjà discuté, a pas grand chose à faire aux Jeux Olympiques. Franchement, j'attends rien en fait, quoi. Surtout, j'attends rien. Je regardais les matchs, bien sûr, hein, surtout, bien que ça dépend un peu des gens, mais j'attends rien du tout de spécial de cette compétition.
Allez, il y avait un peu de championnat quand même chez les féminines. Avant, on va parler de la semaine de Ligue des Champions. Ça va être une demi-finale pratiquement 100% française, hein, puisque Lyon a gagné à Benfica 2-1 et en même temps, le Paris Saint-Germain a gagné à Kem 2-1. Donc, ce sont deux équipes qui vont être en ballottage très favorable pour jouer donc ensemble les demi-finales. Et puis, on va rappeler que Chelsea a gagné à l'Ajax d'Amsterdam 3-0 et que Barcelone a gagné à Bergen 2-1. Donc, on s'achemine aussi vers une autre demi-finale entre Chelsea et Barcelone.
Ouais. Ce qui va être... Ça va être des matchs très, très relevés. Voilà, on ne sait pas trop.
On aura au moins une équipe en finale, quoi. Paris Saint-Germain. Ouais. Paris Saint-Germain-Lyon en demi-finale, on en aura au moins une équipe en finale, quoi.
Voilà, tout à fait.
Allez, le foot féminin, Fleury qui a battu le PFC 2-1. Victoire assez nette de Lyon à Lille 7-0. Et puis Paris Saint-Germain qui va gagner à Montpellier 3-1. Bon, pas de changement. Toujours Lyon en tête avec 52 points. Devant le PSG, deuxième 45. Troisième, le Paris FC avec un match en moins quand même, 37 points. Et quatrième, Reims, 26 points. Un petit mot du national, puisque le Red Star et Nancy ont fait match nul un partout. À noter que Martigues a battu Avranches 2-0. Orléans battu à domicile par Cholet 2-1. Sochaux, battu à domicile par Châteauroux 2-0. Et ce soir, donc, Versailles et Niort s'affrontent à partir de 21h. C'est le Red Star qui est en tête, 55 points, devant Niort, deuxième 47, troisième Martigues 46. Versailles est dixième avec Châteauroux avec 32 points. Un petit commentaire dessus. Toujours le Red Star, donc, qui est bien parti pour retrouver la Ligue 2.
On se voit en avance. On a quelle journée? Il reste 8
points.
Journée.
8 points.
Ça serait vraiment, on se voit en avance sur le troisième, ça serait vraiment un tsunami de ne pas voir le Red Star retrouver enfin la Ligue 2, quoi. Ça paraît évident. Maintenant, tout peut arriver, hein, mais bon, on se prend en avance. Je sais pas combien il y a combien de journées là. Je sais c'est, pas combien.
Là, c'est la 26e. Là, il doit 20e, pardon, 20e, ouais. 20e. Donc, il doit en rester encore à peu près 8 à peu près. Voilà.
Et donc, on va voir ce que ça va donner maintenant. C'est vrai que le Red Star a déjà. Déjà, je pense, à pied en Ligue 1, ouais. En Ligue 2.
Ouais. Jean-Luc Châteauroux, c'est pas très loin d'où vous êtes maintenant.
Oui.
Hein, ils vont remonter, ils vont remonter quand même.
Je regarde les résultats de la Berry, du coup.
Ouais.
Ils sont très mal partis. Puis là, ils ont bien remonté. Ils ont failli gagner au Restart. Ouais, ouais. Hein. Ils auraient. Ouais, et à Saint-Ouen, et puis ils ont gagné à Sochaux.
Oui, il ne reste plus trop de journées. Voilà. Je crois qu'il doit rester 8 journées, voilà. Comme la Ligue 1.
Un peu plus au sud de Châteauroux, près de la Châte, il y a un village qui s'appelle Montgivray. Pourquoi j'en parle? C'est parce que. Ouais. L'enfant du village s'appelle Dominique Bijota.
Ah d'accord.
Il y a 40 ans, il était champion olympique.
Il était avec l'espoir, justement. On l'a vu mercredi avec l'équipe.
Voilà, il était champion olympique. Ouais. Et fin avril, à Montgivray, le club qu'il a formé, ils vont faire ils vont fêter le quarantenaire de sa médaille olympique.
D'accord.
Voilà, okay. De Los Angeles. Ouais.
On avait d'ailleurs interviewé Daniel Zverev qui nous a sorti sa belle médaille d'or. Voilà.
Vous savez tout.
Allez, on va finir, Stéphane, avec le national. Donc, 0-0 entre le Paris Atlético et Saumur. Le Paris Atlético, donc, qui joue la montée. Hein, deuxième avec 34 points à un point de Libourne et La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc, on se retrouve au bout du foot avec Malik tout à l'heure.
Ouais, tout à fait. J'y serai à partir de 21h.
Alors, bon... Pas d'émission la semaine prochaine, hein, mais on se retrouve dans 15 jours, puisque c'est le week-end de Pâques.
Vous offrez pas un peu des œufs à mon Paris FM.
Comment ?
Vous offrez pas un peu les œufs et tout? On va pour venir pas chercher les œufs.
Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ça. Donc, mais c'est repos. Hein. À ta ville de Paris, c'est repos. Voilà. Merci. Allez. En tout cas, Stéphane. Et puis, bonne fin de bouclage. Bonne fin de bouclage. Allez. Maintenant, on va enchaîner avec, après toutes les informations, sur le journal des autres sports. Alors, hors patinage et hors foot, puisqu'on en a parlé.
C'est ça, donc on commence le journal des sports avec le rugby et les résultats de nos clubs parisiens en top 14. Voilà. Le Racing 92 s'est imposé 23-21 sur la pelouse de Castres. Le Stade français, quant à lui, a décroché une large victoire face au Lyon Olympique Universitaire 22-13. Le Racing qui se trouve quatrième à un point seulement de Bordeaux-Bègles, le troisième. Et le Stade français, toujours leader, 3 points devant le Stade toulousain. Toulon 5e avec 46 points, égalité avec le Stade Rochelet 6e. Et Montpellier et l'Oyonnax Rugby sont toujours relégables. En basket, les résultats de la 26e journée de championnat. Nanterre qui s'est imposé 105-98 face à Bourg-en-Bresse reste 5e. Et le Paris Basket qui a gagné tranquillement 101-77 face à Limoges se rapproche de Monaco et donc de la première place. Et puis une victoire importante de Boulogne-le-Valois face à Dijon, 82-77. Après une série catastrophique de 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, le club des Hauts-de-Seine retrouve enfin la gloire. Boulogne-le-Valois reste malheureusement bon dernier et match important contre Rouen 16e est relégable la semaine prochaine. Handball maintenant, le Paris Saint-Germain continue son excellente série et s'impose sans trembler face à Limoges 36-29. Les Parisiens sont toujours premiers à 5 points de Nantes. Ivry qui a gagné contre la Lanterne Rouge Dijon 33-23 reste 13e et à 5 points de la zone de relégation. Tandis que Créteil perd à domicile face à Montpellier 35-26. Ça sent pas très bon pour Créteil à 9 journées de la fin, toujours premier relégable, avec 8 points devant Dijon, 6 points. En volley, Paris gagne 3-0 contre 7 dans un match à sens unique. Les Parisiens restent 8e à 9 points. Du 9e, le Plessis Robinson qui a concédé ce week-end une défaite face à Poitiers 3-1. Chaumont toujours solide leader de la Marmara Spike League et c'est Saint-Jean d'Illiac qui ferme la marche. Parlons sport mécanique maintenant, Philippe, et le Grand Prix d'Australie en Formule 1 qui s'est soldé par la victoire de Carlos Sainz devant Charles Leclerc et Lando Norris. Max Verstappen toujours leader au classement des pilotes, mais attention à Charles Leclerc qui le talonne de très près. Au classement des constructeurs, c'est toujours Red Bull qui est devant avec 97 points et puis Ferrari juste derrière avec 93 points. Il y avait aussi le Grand Prix de Portugal hier en moto et l'Espagnol Jorge Martin qui a remporté cette course devant Enea Bastianini, l'Italien, et son compatriote Pedro Acosta. Le Français Fabio Quartararo a fini 7e de la course. Et puis on termine ce journal avec la Coupe du Monde de ski alpin. Et logiquement, ce sont les vainqueurs des gros globes, Lara Gutberami et Marco Odermatt, qui sont au sommet du classement des gains. Sans oublier le succès final de la Française Chloé Trespech en Coupe du Monde de snowboard. Elle remporte enfin son premier globe de cristal.
Merci Alexandre pour ce journal des sports très complet. Hein. On a été très complet. Hein. Ouais, ouais. Le dopage dans le vélo, est-ce que c'est plus fréquent que dans les autres sports ou est-ce que finalement, ça... parce que c'est vrai qu'il y a cette image du dopage. On connaît bien le vélo. C'est un milieu qu'on fréquente. Il y en a pas plus qu'ailleurs.
Oui, c'est un sujet récurrent lorsque le tour revient et c'est presque devenu une habitude quoi, de reparler de. Mmh. Mais non, enfin, honnêtement. Je serais incapable de répondre à votre question.
Oui, non, mais sinon, je sais bien que c'est. Ouais.
Ça serait malhonnête de dire. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus de dopage dans le vélo qu'ailleurs. Mmh. Et là encore, je serais incapable de placer le curseur.
Jean-Luc, les grands événements de sport, vous les suivez régulièrement encore ou on a pris un peu de recul avec ça quand on sort un peu de l'équipe et du Paris.
J'adore le rugby, donc je rate. Bon, le tournoi, je ne l'ai pas raté, évidemment.
Oui, bien sûr. Bah, c'est une institution. Tiens, justement, votre bilan sur le tournoi. L'équipe de France 2e, on en parlait la semaine dernière avec Julien Combes. Bon, elle a eu un petit peu de mal à supporter l'après-mondial qu'on a vécu sur Paris FM.
Beaucoup
notamment,
de mal.
Notamment avec notre ami François qu'on salue, hein, François Artigas. Oui, ouais, ouais. C'est vrai qu'elle a eu du mal à supporter.
Elle ne l'a toujours pas digéré, je pense.
Ouais,
hein.
Ouais. Ah, c'était mieux quand même les derniers matchs.
Oui, oui, oui. Bien sûr, et puis on a vu deux matchs enthousiasmants
contre le Pays de Galles et l'Angleterre, c'était
contre
mieux,
l'Angleterre. Ouais. Mais quand vous voyez que finalement le Pays de Galles est à la cuillère de bois, bon, mm-hmm. ça veut dire que c'est
ouais, ça relativise un peu. Ouais.
Je pense que ça relativise, Et puis l'Angleterre, ça s'est joué. C'est vrai que le scénario était extraordinaire.
Ah oui, c'était un match fabuleux.
Justement,
je pensais à ça samedi soir parce que en une semaine d'intervalle, il y a eu le rugby à Lyon. Et le foot à Lyon, ça a été complètement le grand écart entre
les deux prestations. Après, c'est... Oui, au niveau des prestations, oui. Mais très franchement, le match Après le premier but, j'ai pas trop regardé.
Ouais.
Parce que c'était pas extraordinaire, hein, ce match. Hein. Non, mais par contre, le bon côté, on s'est aperçu, mais on le savait déjà pendant cette Coupe du Monde de rugby, puis en voyant ces matchs entre guillemets délocalisés du tournoi, qu'on a des stades magnifiques en France.
Oui, bien sûr. Bien
Marseille,
sûr,
Lyon, bien sûr. Lille.
Oui, oui. Non, puis le rugby fait recette en province. Le rugby a toujours fait recette en province.
Oui, complètement. Hein. Oui. Et puis là, c'est chouette de voir la Bretagne sortir
un demi-mêlée.
Demi-mêlée.
Je crois que c'est le deuxième international français breton dans l'histoire de rugby français.
Oui,
je crois que c'est le deuxième.
Qui a joué
j'ai lu un papier, c'est le deuxième, je crois.
Donc le rugby, c'est ça aujourd'hui. Hein, de toute façon,
Justement, c'est bien que le fait qu'il y ait eu les Jeux sur Paris cette année, on y ait délocalisé les grands matchs de foot, les grands matchs pour le rugby, y compris l'arrivée du Tour de France.
Y compris l'arrivée du Tour de France.
À Nice.
Ça prouve l'important. Enfin,
on n'oublie pas la province, ça c'est important.
Oui, alors après, c'est dicté par la préparation des Jeux. Hein,
bien sûr. On y reviendra à Paris, mais...
Mais par exemple,
mais ça peut donner des idées pour la suite, pourquoi pas?
Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Après, moi, je suis assez, je vais pas dire conservateur, mais pour moi, le tournoi, c'est à Paris, quoi.
Oui. Voilà. Oui.
Bien sûr, hein, les stades, on voit quand on est devant l'écran, enfin devant la télé, finalement, on voit que des beaux stades. Donc, qu'on soit à Lille, à Marseille, à Lyon, c'est grandiose. Hein.
Oui, et puis c'est comme la première fois qu'on a eu des matchs du tournoi destination le dimanche, ça faisait drôle, quoi. Avant le tournoi, c'était les matchs du samedi.
Et puis avec 5 nations.
Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Avec une journée exempte quand
l'équipe ne jouait pas. Avec Non. Et puis c'était les matchs du samedi. Dans le froid, ça a peut-être changé aussi, j'en sais rien. Mais ce qui va me faire vraiment bizarre, c'est le Tour de France qui arrive à Nice, par contre.
Oui.
Parce que il faut savoir qu'il arrive, il arrive sur les Champs-Élysées depuis 1975.
Oui.
Déjà, donc
Hugues Mourouzi qui avait suggéré ça.
Exactement, sur la première chaîne.
Au président Giscard d'Estaing, oui.
Voilà.
Ouais.
Giscard était venu à pied
de l'Élysée, de l'Élysée derrière, c'est pas loin.
Pas loin, ouais. C'est juste derrière aller remettre le vase de Sèvres. Voilà. Ouais. Et puis, avant, c'était quoi? C'était la Cipale de Vincennes, c'était le Parc des Princes. C'est-à-dire que c'est la première fois en 111 éditions que
le Tour de France va arriver en dehors de Paris. Ouais.
Que le Tour ne va pas arriver. Alors après, je pense que Nice, c'était la ville qu'il fallait pour ça.
Oui.
Parce qu'il fallait quand même une arrivée grandiose malgré tout.
Oui,
hein,
une ville symbolique. Puis il y a déjà le Paris-Nice en plus. Donc,
oui,
déjà, c'est,
et puis moi, j'ai plus le souvenir du Tour 2020, le Tour du Covid. Mm-hmm. C'est-à-dire
c'était un très beau Tour de France en plus. Hein.
Ce tour qui a démarré fin août, en septembre. Alors,
pareil, il faisait beau, moi, septembre.
On n'avait pas trop l'habitude. Hein.
Ah ouais.
Peut-être encore moins qu'une Coupe du Monde en mois de décembre au Qatar, mais enfin, on n'avait pas trop l'habitude. Mm-hmm. Et puis finalement, Nice a quand même sauvé le tour quelque part.
Oui.
Parce que je me souviens de jours très crispants avant le départ du tour, avec le préfet qui organisait des réunions de crise, parce que le Covid était, la pandémie était revenue, et on se demandait comment ce tour allait partir. Finalement, ils ont réussi à le faire partir de Nice et puis après,
Ce qui est fabuleux, c'est que toutes les collectivités aient joué le jeu, quoi, et qu'ils aient pu décaler comme ça ce Tour de France en quelques semaines. Il n'y a pas eu un seul refus. Quoi. Et ça, je sais que Christian Prudhomme était particulièrement ravi de ça. Hein.
Avec le recul, c'est une performance extraordinaire
de
l'organisation. Surtout qu'à l'époque, je me souviens que Christian disait mais il faut voir, moi je suis tout seul dans mon bureau, tout seul chez moi.
Mm-hmm.
Les gens sont chez eux.
Oui,
il n'y a plus de collaborateurs, il n'y a plus de gens pour aller dans les villes pour organiser les étapes. On était tous chez nous, non?
Et
donc, lui, il était tout seul avec peut-être un collaborateur, avec Thierry Gouvenou, puis peut-être encore un autre. Et puis, ils ont piloté ça de manière... On ne s'en est pas trop rendu compte à l'époque parce qu'on était tous enfermés, puis on avait tous nos soucis. Et peut-être que le tour, c'était
une belle bouffée d'oxygène,
oui,
quand même.
Hein. Certes. Mais il faut reconnaître avec le recul que c'était un exploit. Voilà,
merci Jean-Luc, en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Merci Vanessa.
Merci
donc Alexandre. Merci. On va finir, et on va remercier Jason, c'était Plastic Bertrand pour Sa Plane pour moi la semaine dernière. Là, on finit avec Est-ce que tu viens pour les vacances avec David et Jonathan. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Bonne soirée.
Bonne soirée et joyeux Spike.
J'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse, je serai, je pense,
Paris FM.